La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un monde.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Aujourd'hui, nous nous réunissons autour d'un livre dont le titre est étrange. Il vient de paraître aux éditions de l'Incidence. Il s'appelle « Le strabisme du tableau, essai sur les regards divergents du portrait ». Ce livre au sujet curieux nous conduit à observer des œuvres qui, du XVe siècle à nos jours, retiennent notre attention par la nature particulière du regard que nous adressent ces personnages portraiturés. Nous ne remarquons pas, en observant leur visage au début de notre contemplation, ce détail, mais qui nous trouble, et qui fait que celui qui est dépeint nous regarde et ne nous regarde pas dans un même mouvement. Alors, ce serait une démarche déjà inhabituelle de la part de l'auteur que de rechercher dans l'histoire de l'art des modèles qui seraient affublés d'un strabisme. Mais lisant le livre, on comprend assez rapidement que s'il s'agit parfois d'un léger défaut de celui qui est représenté, c'est le plus souvent un stratagème du peintre qui le conduit à artificiellement produire cette divergence du regard pour appuyer une signification. Alors, ce n'est plus le modèle qui louche ou qui diverge, mais le tableau lui-même qui, comme par contagion, se déstabilise intentionnellement pour être doté d'une efficacité nouvelle, qui cette fois atteint le regardeur, contraint de chercher sa distance, sa place devant l'œuvre qu'il regarde. Nathalie Delbar, que nous rencontrons aujourd'hui à propos de ce livre, s'appuie sur des œuvres comme autant de cas, et de la Renaissance italienne ou flamande à Goya ou Manet jusqu'à l'art d'aujourd'hui, je pense à Jean-Luc Moulaine par exemple. Elle nous guide avec des idées excitantes car peu relevées. On voit naître le portrait de trois quarts et l'effet contourné que celui-ci a sur le regard du modèle, selon qu'un ou deux yeux apparaissent, regard en coin, ou regard rêveur, ou regard perdu, ou scrutateur, on a l'impression que par ce détail, par cette particularité du corps ou de son mouvement, un peu de la personne représentée et des contradictions de son âme nous sont suggérées. Ce qui me touche dans ce livre que vous avez rédigé, Nathalie, est qu'il n'affirme pas une élucidation symbolique, mais plutôt une sensation réfléchie sur la pensivité du regard. Et vous reprenez pour exprimer l'état d'esprit de votre recherche une phrase de Barthes qui m'a beaucoup plu et qui décrit, je crois, très bien votre méthode. Il s'agit d'observer, dit-il, le produit d'une poussée, non d'une intention. Le produit d'une poussée, Nathalie Delbar, je suis ravi de vous avoir dans l'émission. Bonjour.
Bonjour, je suis ravie également. Très bien, merci.
Vous êtes professeur en art plastique à l'Université de Lille, chercheuse au sein du CEAC, Centre de...
d'études des arts contemporains.
Et vous préparez une monographie de l'artiste qui apparaît en premier dans votre livre, qui est Jean-Luc Moulaine. Pourquoi est-ce qu'il apparaît en premier dans votre livre ?
Oui, je prépare cette monographie sur Jean-Luc Moulaine. Alors, il apparaît en quasiment l'introduction parce que c'est cette photographie, image blanche, qui est à l'origine de cet ouvrage, en partie, au moins, disons, qui a conforté une intuition. C'est une image que peut-être je peux décrire
oui,
rapidement.
S'il vous plaît,
nous voyons une femme avec un enfant, donc photographiée par Jean-Luc Moulaine, et son regard est effectivement légèrement divergent. Elle a un léger strabisme, en tout cas, à l'image. Et c'est le commentaire de l'artiste sur cette photographie qui m'a éclairé, disant « Un œil tient l'enfant ». Qu'elle a sur ses genoux, un autre le spectateur. Et donc, il révèle ici un régime de l'image, une sorte de structure interne de la composition qui se rejoue dans le regard de cette femme photographiée. Et donc, je considère que grâce à lui, je suis allée jusqu'au bout de mon intuition, qui était celle que le strabisme pouvait être autre chose qu'un détail, disons, anecdotique.
Et donc, c'est un strabisme qui crée un attachement. Et cet attachement, vous le faites apparaître dans un texte que vous citez et que je trouve extrêmement frappant, très beau, et qui est le texte de Descartes, et qui est une lettre. C'est une lettre, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait.
Écoutons le texte, profitons de votre présence, Nathalie Canoui. C'est une chance d'avoir une actrice à bord, si je puis dire. Allez-y.
Lorsque j'étais enfant, J'aimais une fille de mon âge, qui était un peu louche. Au moyen de quoi l'impression qui se faisait par la vue en mon cerveau, quand je regardais ses yeux égarés, se joignait tellement à celle qui s'y faisait aussi pour émouvoir en moi la passion de l'amour, que longtemps après, en voyant des personnes louches, je me sentais plus enclin à les aimer qu'à en aimer d'autres, pour cela seul qu'elles avaient ce défaut. Et je ne savais pas néanmoins que ce fût pour cela. Au contraire, depuis que j'y ai fait réflexion et j'ai reconnu que c'était un défaut, je n'en ai plus été émue. Ainsi, lorsque nous sommes portés à aimer quelqu'un sans que nous en sachions la cause, nous pouvons croire que cela vient de ce qu'il y a quelque chose en lui de semblable à ce qui a été dans un autre objet que nous avons aimé auparavant, encore que nous ne sachions pas ce que c'est. Et bien que ce soit plus ordinairement une perfection qu'un défaut qui nous attire, ainsi à l'amour, toutefois à cause que ce peut être quelquefois un défaut, comme en l'exemple que j'ai apporté, un homme sage ne se doit pas laisser entièrement aller à cette passion, avant que d'avoir considéré le mérite de la personne pour laquelle nous nous sentons émus. Mais à cause que nous ne pouvons pas aimer également tous ceux en qui nous remarquons des mérites égaux, je crois que nous sommes seulement obligés de les estimer également, et que le principal bien de la vie étant d'avoir de l'amitié pour quelques-uns, nous avons raison de préférer ceux à qui nos inclinations secrètes nous joignent, pourvu que nous remarquions aussi en eux du mérite.
Nathalie, donc ce texte vous a attaché. Évidemment, comme ces regards vous ont attaché, vous pensez que c'est un stratagème pour créer de l'attachement, justement, cette question du regard de la part des artistes ?
Alors ça, je ne sais pas si c'est un stratagème, c'est un fait de peinture en tout cas, et c'est quelque chose qui a été fort pour moi dans l'expérience de la visite. L'attachement que Descartes peut avoir à ces personnes louches, je peux faire un parallèle avec celui que j'ai pu avoir avec certains tableaux devant lesquels je revenais sans comprendre véritablement ce qui se passait là de singulier.
Par exemple, est-ce que le strabisme qui apparaît dans la photographie de Jean-Luc Moulin est quelque chose qui vous a retenu?
Ah oui.
Ça, c'est une anomalie qu'on perçoit pas tout de suite.
Non, elle est assez légère, mais elle m'a retenu et c'est ce qui m'a conduit à m'interroger et à vouloir comprendre.
Alors, il y a une première chose qui apparaît, c'est intéressant parce que c'est quasiment le premier portrait de l'histoire de l'art, enfin, c'est le pseudo premier portrait de l'histoire de l'art, si je puis dire. C'est évidemment le très beau autoportrait au turban rouge, supposé en tout cas autoportrait de Van Eyck, qui est un autoportrait de 1433 et dans lequel il se décrit. Est-ce que vous pouvez nous le décrire et puis dire ce que vous avez trouvé, ce que vous avez cherché dans cet autoportrait?
Alors le décrire, ce n'est pas évident. C'est un tout petit portrait déjà, mais c'est un portrait, c'est le premier de l'histoire de la peinture occidentale qui nous fixe. Donc nous avons un regard assez aiguisé, un visage assez déterminé et sérieux, et avec un grand turban rouge qui enroule comme ça la partie supérieure de sa tête. Et ce qui me plaît dans ce portrait, c'est que finalement, alors qu'on considère que c'est une adresse, un tableau exemplaire finalement de cette adresse directe qui est faite au spectateur, mais devant ce tableau, moi je me sens un petit peu justement dans cet état que vous avez décrit en introduction, à la fois regardé et pas tout à fait. Il y a quelque chose dans l'un des yeux de Van Eyck qui semble passer légèrement à côté de moi. Et donc cette sorte de trouble perceptif me semble introduire en fait une autre histoire du portrait qui est celle justement d'une sorte de strabisme subtil, très subtil dans le cas de Van Eyck.
Il est à peine perceptible, mais ce qui est très curieux, et vous le manifestez tout de suite dans votre analyse, c'est que le portrait est tourné. Pas tout à fait de trois quarts, mais cette question du trois quarts est importante. Et ses yeux vont pas dans le sens de la direction du corps. C'est-à-dire que vous êtes observé, mais le corps a un double mouvement.
Tout à fait. Et c'est vrai que chez les primitifs flamands notamment, et Van Eyck en est l'une des grandes figures, évidemment, on a cette posture paradoxale du corps qui se met de côté, du buste, qui regarde d'un côté, alors que le regard s'oriente de l'autre. Et on introduit une sorte de mouvement qui, sans doute, contribue aussi à animer ces visages d'une manière tout à fait nouvelle pour l'époque.
Alors, c'est drôle parce qu'il a fait le portrait de sa femme également, le portrait de... Comment est-ce qu'elle s'appelle, Marguerite ?
Oui, c'est ça, Marguerite.
Marguerite. Et alors là, c'est très... On essaye de mettre des mots sur l'expression d'un visage et on a l'impression qu'elle l'observe, mais qu'elle observe avec une sorte d'esprit de contrôle ou d'esprit de surveillance. Comment est-ce que vous décririez son regard ?
Alors c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait affaire au même regard, il y a un sourcil comme ça qui se soulève et je trouve qu'il a une pointe d'ironie ce regard,
ah oui,
une sévérité à la fois, une pointe d'ironie, c'est très paradoxal, mais il est plus circonspect, on pourrait dire, à l'égard du spectateur, je trouve, que le regard de Van Eyck lui-même, qui est très acéré.
Alors, vous faites surgir une notion à ce moment-là que je connaissais pas. Catagrapha. Qu'est-ce que c'est que le catagrapha?
Alors, je la connaissais pas non plus avant de me pencher sur ses œuvres. C'est en cherchant à comprendre la singularité de cette posture de trois quarts que je suis tombée sur cette notion chez Pline l'Ancien. Alors, on trouve parfois dans les traductions, et je pense que c'est une erreur, mais il faudrait interroger les spécialistes, une traduction pour profil, alors qu'au contraire, il s'agit plutôt de traduire un raccourci, en tout cas un effort des peintres pour un dessin de trois quarts qui permet de varier la disposition des figures et qui va introduire justement, elle, à la fois la sensation de l'espace et du mouvement, même si ça reste encore balbutiant à l'égard des peintres qu'évoque Pline.
Alors c'est assez intéressant parce que bon, Pline se passionne évidemment pour la naissance des choses, la naissance de la sculpture, la naissance de la peinture, etc. Et là, c'est la naissance du grand artiste. Et curieusement, la naissance du grand artiste, lui, il la situe à l'époque de Romulus, hein, c'est-à-dire grosso modo vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Et il dit, le grand artiste, c'est celui qui justement fait ce catagrapha. Écoutons ce qu'il en dit.
S'il faut accepter cette conclusion, il s'ensuit que les débuts de la peinture sont beaucoup plus anciens et que remontent à une époque nettement plus précoce ceux qui ont peint des monochromes et dont la tradition ne fixe pas les dates, Higiénon, d'Ignace, Charmadas, ainsi que celui qui le premier sut distinguer en peinture l'homme de la femme et osa s'attaquer à la représentation de toute espèce de posture, Eumarus d'Athènes, sans oublier celui qui perfectionna ses inventions, Simon de Cléone. Celui-ci inventa les catagrapha, c'est-à-dire les dessins de trois quarts et la façon de varier la disposition des visages, regardant en arrière, vers le haut ou vers le bas. Il sut marquer les articulations des membres, fit saillir les veines et introduisit en outre, dans les vêtements, le plissé et le drapé.
Alors il y a, Nathalie, dans le livre sur ces questions de catagrapha, sur ce visage un peu tourné qui regarde en coin, cette posture qu'on trouve en raccourci. Il y a un chef-d'œuvre absolu qui apparaît dans votre livre et qui fait l'objet de votre analyse, qui est le Petrus Christus. Et je pense à ce tableau absolument sublime, le portrait d'une jeune femme de 1470, qui est de toute beauté. Alors je ne sais pas si elle regarde du coin de l'œil à la dérobée, comment se fait-il qu'il y a là effectivement un décalage entre les deux yeux. On a même l'impression qu'ils ne sont pas au même niveau.
Oui, il est tout à fait fascinant pour cette raison. C'est vrai que c'est un bijou absolu. C'est une énigme aussi, c'est-à-dire que dans les recherches que j'ai pu faire dans les archives, on évoque l'étrangeté de ce regard, mais aucun mot du fait qu'il soit tout de même assez divergent. Finalement, si on cache un côté du visage ou l'autre, on se rend compte que l'œil qui est à notre droite, quand on regarde le tableau, est vraiment comme une sorte d'amant défilé qui glisse comme ça vers la droite et son oreille appelle ce coin de l'œil. Et finalement, c'est un tableau à la fois très sobre et extrêmement maîtrisé de ce point de vue-là, puisque l'ensemble des éléments, et notamment la coiffe du visage, insiste aussi sur justement ce mouvement singulier de cet œil.
Alors quand on le voit à Berlin, moi je l'ai vu à Berlin, donc il fait 30 cm sur 20 à peu près, hein, c'est tout petit.
Tout petit,
et ça a une présence, c'est la Joconde du Nord, hein, on l'appelle comme ça
on
parfois.
On l'appelle comme ça, oui.
Hein, c'est extraordinaire. Et donc imaginez un visage ovale, comme un œuf pratiquement, légèrement détourné, on ne voit qu'une seule oreille, le front est totalement dégagé, un petit peu à la mode de la Renaissance, hein, n'est-ce pas, avec quasiment et simplement un bonnet, une petite coiffe comme ça qui vient sur des tempes totalement dégagées. Le visage est tellement lisse et tellement étrange avec des sourcils absents qu'on a l'impression que c'est un personnage presque extraterrestre. Il est très très loin de nous. Et vous avez une expression dans le livre que je trouve sensationnelle, c'est que vous dites quelque chose. Vous parlez de ses yeux, parce que les yeux sont très très bridés, hein. C'est encore plus que chez Piero della Francesca. Ça. Vous parlez d'une apostrophe oculaire. Mmh. Et j'adore cette expression parce qu'on est apostrophé par ses yeux. C'est-à-dire que l'œil est tellement bizarre qu'il vous appelle, vous êtes appelé. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette expression?
C'est à la fois l'appel et c'est à la fois la ponctuation, je dirais, d'une certaine manière. C'est quelque chose qui crée une sorte de césure, de rupture avec dans l'ensemble du tableau et qui est assez magnétique. Ça reste pour moi tout à fait énigmatique d'une certaine manière, mais c'est quelque chose qu'on retrouve chez Petrus Christus. C'est-à-dire que c'est moi je relis ce tableau à d'autres œuvres, notamment le portrait de Grimstone qu'il a fait quelques années auparavant.
Qu'est-ce que c'est que ce portrait ? Racontez-nous.
Alors c'est le portrait d'un homme cette fois-ci qui, contrairement à la Joconde du Nord, se trouve dans un arrière-plan. Un espace représenté comme tel, avec une lumière qui vient de côté à travers un oculus, et qui est le premier portrait en coin, nous dit Panofsky, de la peinture. Il a lui aussi cette posture de trois quarts assez paradoxale et contrariée. Il a un œil beaucoup plus grand que l'autre, une arête du nez très dessinée par la lumière. Il nous regarde avec une certaine distance, une certaine assurance. Mais je le compare l'un et l'autre parce que finalement, ils fonctionnent tous les deux sur cette contradiction justement de la catagrapha, hein, du regard et du corps qui se voient inversés dans leurs orientations. Et puis également parce que dans leur place dans l'espace, ils ouvrent à quelque chose qui n'est pas face à nous. Chez Grimstone, c'est le point de perspective qui est totalement décalé, qui est hors du tableau et qui fait que nous-mêmes spectateurs sentons quelque chose qui n'est pas en face, même si nous sommes frontalement devant l'œuvre. Et dans la Joconde du Nord, dans ce portrait de femme de Christus que nous évoquions juste avant,
qui lui est sur un fond complètement
neutre. C'est un fond neutre, mais nous sentons que à la fois cet œil et cette oreille et le travail de la lumière nous amène vers un espace de côté, une sorte de ce que j'appelle un tiers, une ouverture en tout cas qui casse finalement une relation simplement de face à face, comme nous la connaissons habituellement.
C'est très très important parce que le tableau que vous venez de citer juste avant, le portrait de Grimstone, que je connaissais pas, on est dominé par ce personnage. On sent quand même que c'est un portrait hiératique de représentation de pouvoir. Hein. Il est présenté comme si on était en dessous de lui. On sent bien qu'on est dominé. Ce travail de cette jeune fille caressée par la lumière, l'œil divergent qu'elle a et un petit peu et qu'elle partage avec Grimstone, qui lui l'a très nettement, eh bien, ça fait apparaître quelque chose que vous venez de citer et que je trouve une rupture. C'est qu'il y a le regardeur qui est devant le tableau et il y a une autre personne qui est regardée par elle et qui est ailleurs. Mmh. Et donc, ça annonce ce que vous annoncez dans votre livre. Ça annonce le balcon, ça annonce cette instabilité du regardeur, non ?
Oui, tout à fait. Et c'est même peut-être l'une des grandes hypothèses de l'ouvrage, de proposer un autre régime de perception et qui entraîne le spectateur à percevoir qu'il n'est pas seul à être regardé, quelque chose d'autre ou un autre espace s'ouvre à côté ou derrière lui. Et d'ailleurs, si Descartes est là dans le livre, c'est aussi peut-être par un renversement, parce que Descartes, dans son traité d'optique, au contraire, lui, prend le modèle de la chambre noire, de la camera obscura, comme, disons, le modèle idéal de la vision, alors qu'on voit bien qu'ici, au moment où s'invente la perspective et s'invente le portrait, d'une certaine manière, eh bien, des artistes vont glisser quelque chose qui ne relève pas justement d'une perception monofocale.
Cette incertitude que ça crée, cette sorte de flottement au fond de l'attention, on ne sait pas si elle est attentive à nous ou à autre chose, si nous-mêmes nous sommes concentrés, etc. Est-ce que ça évoque Léonard ou pas ?
Oui, mais je ne pouvais pas ne pas l'évoquer et je pense qu'effectivement, d'ailleurs, la Joconde du Nord, c'est peut-être pour cette raison-là aussi, hein, pour cette espèce de
mais en quoi est-ce que ça évoque Léonard ?
En quoi ? Eh bien, justement, à la fois par rapport à la construction de l'œuvre, là, je pense à Mona Lisa. Hein, alors, Daniel Arras ou d'autres ont très bien montré comment justement on est dans une sorte de jeu de dédoublement, en tout cas d'asymétrie dynamique hein, dans la construction du regard et du rapport du regard avec l'arrière-plan chez Mona Lisa, hein, où la ligne d'horizon n'est pas la même d'un côté et de l'autre du visage. Et d'une certaine manière, cette façon de pouvoir à la fois regarder le spectateur et donner le sentiment que ces visages de femmes s'adressent aussi à un espace qui n'est pas celui du spectateur, mais ces sensations sont simultanées. Je pense que l'une et l'autre Joconde le partagent et le produisent. C'est un peu vague ce que je raconte là, mais c'est une sorte d'omnivoyance aussi.
Mais c'est extraordinaire parce que c'est dans ce sur quoi cela repose dans notre Joconde du Nord, c'est un 18e du tableau. C'est-à-dire la surface que prend ce qui crée le trouble chez nous est si peu. Et au fond, c'est ça qui est merveilleux dans le livre, c'est que vous portez l'attention à quelque chose qui est important dans la relation physique entre deux êtres, mais qui est si peu par rapport à la surface du tableau, comme si tout d'un coup, ce peu faisait basculer l'ensemble de la perception.
Oui, parce que ce peut entraîne tout le tableau, ou alors tout le tableau va avec ceci peut. Mais c'est pour ça que je parle du strabisme du tableau, c'est que je pense que c'est structurel, c'est-à-dire que ça touche à l'ensemble de l'œuvre et pas seulement à la représentation du visage.
Alors il y a un moment dans le livre où vous parlez, parce que vous avez... C'est un livre qui est très très écrit, hein. Donc je parlais tout à l'heure de cette apostrophe oculaire que fait cette fameuse Joconde du Nord dont on parle, mais il y a autre chose, une autre expression que j'aime beaucoup, et c'est la façon dont un regard s'adresse à nous pour un tableau de Botticelli, et vous parlez d'une adresse absorbée. Et je trouve ça extraordinaire comme expression. Et vous parlez d'un tableau pourtant très très connu. Racontez-nous.
Oui, alors je suis venue à Botticelli en cherchant aussi quelles étaient les expressions que l'on pouvait trouver qui évoquaient le strabisme. Et Giovanni Carreri, que je remercie pour ça, m'a indiqué qu'en italien, on parlait de lo strabismo di Venere.
De Vénus.
Voilà, j'ai un très mauvais accent. Le strabisme de Vénus, et j'ai cherché longuement d'où venait cette expression. Et il semble, parce que ça a été difficile de trouver, mais que finalement dans l'expression populaire, on associe cette expression à la naissance de Vénus de Botticelli, ce qui m'a décontenancé dans un premier temps parce que je ne trouvais pas que cette Vénus avait ce regard strabique sur lequel je travaillais. Mais finalement, ça m'a amené à cette adresse absorbée que vous venez d'évoquer. C'est là que je me suis rendu compte que le strabisme pouvait être pensé dans la distance, dans l'écart entre l'œuvre et le spectateur. Donc, plutôt dans un rapport perpendiculaire à la toile, disons, qu'à l'intérieur seulement du tableau.
Alors, on parle de la naissance de Vénus. Vous avez tous, chers auditeurs, en tête le tableau. Hein, vous pouvez nous le rappeler.
Oui, bien sûr. Alors, on a Vénus qui est censée sortir des flots sur sa coquille. Et on a notamment, c'est très botticellien, on a ces cheveux blonds qui s'enroulent dans le vent autour de ce visage qui est très impassible, très très idéal et à la fois qui semble perdu dans ses songes. D'où la notion d'absorbement que je suis allée emprunter à Michael Fried. Mais en même temps, j'ai essayé de montrer que chez Michael Fried, l'absorbement, c'est tout le personnage représenté qui finalement ne s'occupe que de lui-même et dénie tout regard adressé au spectateur, alors que chez Botticelli, il me semble que dans le cas de cette naissance de Vénus, elle nous adresse cet absorbement, ce qui est autre chose.
En fait, c'est comme si elle avait... Là, le strabisme est bizarre, c'est comme si elle avait il y a un léger décalage, à peine perceptible entre les deux yeux. Mais on a l'impression que l'un des yeux, un œil, est tourné vers l'intérieur d'elle-même. Elle n'est pas encore sur la Terre. Et l'autre commence avec une certaine difficulté à nous considérer. C'est vraiment deux expressions différentes sur un visage qui pourtant est, le symbole absolu de la perfection classique, si je puis dire. C'est devenu tellement un archétype. Vous l'avez tous eu sur un t-shirt, etc. C'est devenu une sorte d'image incroyablement commerciale et simple. Un archétype, en fait, tout simplement.
Oui, et en même temps, effectivement, de revoir cette œuvre à travers cette idée du strabisme m'a amené à percevoir autre chose de cette œuvre que cet idéal, mais justement cette question de peut-être de vacances, j'ai appelé ça comme
c'est
ça.
C'est très important ça, parce que vous évoquez à un moment donné dans le livre cette question, vous opposez l'école du Nord et l'école italienne.
Oui.
L'école italienne, dites-vous, correspond est habitée par la perspective monoculaire et s'intéresse à la façon dont les objets sont disposés dans l'espace, alors que il y a dans l'école du Nord un espace entre les choses. Mmh. Et vous dites que Botticelli est bien dans cet écart-là. Il est curieusement dans l'école du Nord, non?
Oui, enfin, alors peut-être que c'est...
C'est quoi la vacance dont vous parlez?
Mais oui, c'est cette idée d'une attention portée à ce qui se passe entre les figures, plutôt que d'introduire le corps dans, disons, dans l'espace fictif, le cube perspectif. Non, c'est effectivement davantage comme les Flamands, de ce point de vue-là, il me semble. Il s'agit de montrer, de permettre aux spectateurs de mesurer que dans le face-à-face qui le sépare de la toile, il y a justement cet air, cet espace entre le portrait et nous.
Mais en fait, il n'y a que de l'espace, parce que sincèrement, la Vénus de Botticelli, elle est tellement absente. Ce n'est assez à peine un corps. Elle
justement,
est très peu incarnée.
L'espace est peu dans la toile, il est entre elle et nous, je dirais, d'une certaine manière. C'est en ça qu'on n'est pas dans le cube perspectif, comme on peut le trouver chez les Italiens, chez certains en tout cas.
Alors, il y a d'autres aspects comme ça que je trouve très importants. Une fois qu'on a dépasser ce regard perdu et cette contradiction d'ailleurs entre la position du corps et la position du regard. Vous parlez tout souvent du contrapposto, comme si c'était le contrapposto. Vous pouvez expliquer ce que c'est que le contrapposto peut-être
Mais le contrapposto, c'est cette posture qu'on trouve dès la sculpture grecque, en fait, qui consiste à non pas se tenir justement dans une posture hiératique et droite, mais à légèrement basculer, plier un genou, ce qui permet de donner un déhanché et qui donne du mouvement à la figure. Et effectivement, cette idée de contrepoint, finalement, on peut le rejouer, je dirais plutôt dans le cadrage classique du portrait, c'est-à-dire au niveau du buste et du visage.
Alors, au fond, ça correspond à ce que vous rappelez dans le texte, c'est ce que disait Alberti, le fameux, notre grand historien, le fondateur de notre histoire de l'art, pour un certain point de vue. Là, on est au XVIe siècle, donc c'est un certain temps. C'est le rapport entre le mouvement du corps et le mouvement de l'âme. Et c'est ça qu'on sent peut-être dans le Botticelli, non ?
Sans doute un petit peu dans le Botticelli et sans doute encore plus dans d'autres œuvres de la Renaissance et même au-delà. C'est effectivement, et ça nourrit d'ailleurs beaucoup les peintres, et puis on a toute une littérature autour de ça, mais ne serait-ce que chez Léonard, on voit bien que ce rapport entre le mouvement de l'âme et le mouvement donné dans la peinture est décisif. Et effectivement, il y a cet enjeu-là, me semble-t-il, dans une part des portraits italiens notamment.
Vous pensez à Raphaël, je suis sûr.
Je pensais aussi à Raphaël, oui. En partie, en disant cela, je pensais à la fois à son portrait de Castiglione.
Le chef-d'œuvre du Louvre, voilà. Quelle merveille absolue. Magnifique. Castiglione qui a écrit ce livre tellement important, Le Courtisan, n'est-ce
Tout
pas
à fait.
Et qui a été... Qui, au fond, je me demande si les artistes n'ont pas essayé de l'incarner dans la facture même de leurs œuvres. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de ce que vous avez retenu, de cette fameuse question de la sprezzatura?
Oui, cette nonchalance, cette manière de faire l'air de rien, en fait. C'est ce l'air de rien qui m'a retenu dans cette sprezzatura qu'a théorisé Castiglione, qui finalement pourrait être traduite, peut-être, c'était une de mes hypothèses, dans ce portrait de Raphaël, par, disons, une organisation légèrement strabique de son regard, du mouvement donné, là aussi très léger, aux étoffes. Et en tout cas, c'est cette idée que les choses se font sans que cela ne soit lourd, sans que cela ne soit artificiel. S'il y a un strabisme dans ce regard-là, il est effectivement dans cette désinvolture qui est chère à Castiglione.
Et qui est l'expression même de l'élégance,
oui,
de l'être et de l'âme, et d'une certaine supériorité aristocratique, on peut dire.
Oui. Et c'est vrai que ce lien que l'on peut faire entre la manière dont les yeux et les expressions sont peints et ce qui serait l'âme de ceux qui sont représentés, on le retrouve à la fois, je dirais, du côté du courtisan et on peut le retrouver aussi du côté du divin, ce que va faire Raphaël avec un autre portrait qui est celui de Tommaso Inghirami, qui cette fois est un homme d'église et qui, lui, souffrait réellement d'un strabisme divergent.
Oui, parce que Balthazar Castiglione, il y a objectivement, on le voit, le strabisme qui n'est peut-être pas le sien, qui est peut-être simplement un artifice du peintre. Qu'est-ce que vous en pensez, Céline?
Je pense que c'est un artifice du peintre. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, la plupart des strabismes que j'ai pensés, voire peut-être parfois de manière excessive, mais j'ai essayé de le faire avec rigueur, ne sont pas des strabismes physiologiques. Ce n'était pas tellement la question qui m'intéressait là, qui serait plutôt une question de représentation des mots MAUX de la peinture, qui est aussi une belle question. Le strabisme qui m'intéresse est celui qui est de l'invention du peintre pour justement produire un mouvement, pour donner un certain nombre d'effets selon les époques et selon les personnes.
D'ailleurs, avant de revenir sur ce que vous avez lancé, le portrait de Tommaso Inghirami, tellement étrange, pardon d'être dans un certain anachronisme, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du strabisme physique chez Rembrandt, par exemple, puisqu'il y avait même une analyse qui avait été faite du nombre de tableaux sur lesquels il se représente comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors oui, effectivement, il y a eu des analyses pour Rembrandt et pour Dürer, où des spécialistes de la vision ont même passé à l'ensemble des autoportraits de ces peintres, ont mesuré précisément l'écart entre les pupilles pour formuler l'hypothèse qu'il souffrait certainement d'un strabisme. Alors moi, ce que j'en pense,
Probablement pas.
J'en pense que ça ne paraît pas tenir debout dans la mesure où le peintre peut bien se représenter comme il l'entend et que s'il souhaite glisser un strabisme pictural, c'est peut-être plutôt pour des raisons de peinture que des raisons de fidélité à sa propre image. Il peut corriger à tout moment ce qu'il peint. Et par ailleurs, je pense que dans l'autoportrait, dans l'exercice de l'autoportrait, il y a d'une certaine manière, par définition, une forme de strabisme, puisqu'on se regarde sur un mode alternatif, sur la toile, dans le miroir, et que finalement, être à la fois sujet, artiste et modèle introduit quelque chose de l'ordre du dédoublement.
Sur le dédoublement, il y a un tableau dont vous parlez, mais qui est dingue, hein, qui est celui de Johannes Gump, un autoportrait de 1646, où l'artiste donc se représente donc de dos. L'artiste est de dos en train de peindre. Et à sa gauche, il y a son profil trois quarts dans le miroir. Et devant lui, il y a le redoublement de l'image du miroir sur le tableau. Donc il est trois fois présent dans l'image. C'est un tableau absolument stupéfiant. Et là encore, le regard nous interpelle, hein, nous apostrophe, comme vous le diriez. Pardon, j'ai décalé, nous étions sur Rembrandt, mais je partage votre point de vue sur Rembrandt, c'est-à-dire que c'est évidemment une façon extraordinaire d'attirer l'attention, mais c'est fou l'importance qu'a l'œil, presque une importance symbolique à ce moment-là. Dans le portrait de Tommaso Ingrami de 1510 de Raphaël, là le personnage donc sur sa fond noir, il est habillé en ecclésiastique, cardinal peut-être, je ne sais pas s'il est cardinal ou évêque, mais on sent que son strabisme est représenté comme une infirmité. Cette fois-ci, il est pris réellement.
Oui, parce qu'on le sait. Un des textes nous le confirme, donc nous savons qu'il souffrait de ce strabisme, mais là où Raphaël est extrêmement subtil et impressionnant dans sa manière de glisser cet élément de vérité dans le portrait, c'est qu'il positionne Ingrami de trois quarts, mais le regard tourné vers le haut du tableau, vers le ciel, et finalement l'œil déficient se retrouve dans la partie arrière, hein, par rapport à la posture du visage, et donc la pupille vient se mettre vraiment dans le coin tout au bout de l'œil qui est dirigé vers le ciel. Et à ce moment-là, il me semble que l'on peut voir cette astuce de Raphaël comme une façon de dire que le regard de cet homme s'ouvre au-delà de la vision humaine, était en train de s'élever vers quelque chose qui dépasse le tableau et qui serait de l'ordre du divin. Ce qu'on va retrouver chez Léonard, par exemple, et chez quelques autres.
Alors cette capacité d'attacher une grande importance au regard fait que dans certains textes, il devient même une métaphore théologique. Et je pense à ce fameux texte de Nicolas de Cuse, le tableau de Dieu, en quelque sorte. Et j'aimerais bien que nous écoutions un extrait de ce texte.
Si je veux vraiment vous mener par des voies humaines aux choses divines, il faut que ce soit par quelques comparaisons. Or, parmi les productions humaines, je n'ai rien trouvé de plus convenable à mon dessein que l'image d'un omnivoyant dont le visage est peint avec un art si subtil qu'il semble tout regarder alentour. Cependant, afin que rien ne vous manque dans un exercice qui exige la figure sensible dont j'ai pu disposer, j'envoie à votre bonté un petit tableau portant cette figure de l'omnivoyant et que j'appelle le tableau de Dieu. Fixez-le où vous voulez, par exemple au mur noir. Vous, frère, placez-vous tout autour, à égale distance du tableau, et regardez-le. De quelque côté qu'il l'examine, chacun de vous fera l'expérience d'être comme le seul à être vu par lui. Au frère qui se trouve à l'est, il paraîtra regarder vers l'est. À celui qui se trouve au sud, vers le sud. Et à celui qui se trouve à l'ouest, vers l'ouest. Vous vous étonnerez en vous demandant d'abord comment il est possible qu'ils vous regardent tous ensemble et chacun en même temps. À celui qui se tient à l'est, il est impossible d'imaginer que le tableau tourne son regard d'un autre côté, par exemple vers l'ouest ou vers le sud. Il demandera alors à son partenaire si le regard du tableau l'a continuellement suivi et il apprendra de ses oreilles que le regard s'est aussi déplacé dans le sens opposé. Alors il le croira. S'il ne le croyait pas, il ne comprendrait pas comment cela est possible. Par la révélation que lui fera le témoin, il parviendra ainsi à savoir que ce visage ne quitte aucun des marcheurs, alors même que leurs mouvements sont contraires. Il fera ainsi l'expérience que le visage immobile se meut en même temps vers l'est et vers l'ouest, vers le nord et vers le sud, vers un seul lieu et vers tous en même temps. que ce regard suit aussi bien un mouvement particulier que tous à la fois. S'il observe que le regard ne quitte aucune des personnes présentes, il verra que ce regard s'occupe de chacune avec autant de soin que si elle était la seule à faire l'expérience d'être suivie, au point que celle qui est regardée ne peut concevoir qu'une autre soit l'objet de la même attention. Il verra alors que ce regard veille avec un soin extrême à la plus petite créature comme à la plus grande et à la totalité de l'univers.
Quel texte, quand je pense qu'on est au 15e siècle et qu'on fait d'un tableau la preuve de l'existence, de l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire Dieu est capable de vous voir tous simultanément avec une intensité équivalente. Et là, on sent véritablement le regard comme métaphore, quoi.
Comme métaphore et en même temps comme quelque chose d'extrêmement concret, puisque de Kuhls envoie une reproduction de ce tableau aux moines et leur demande de l'accrocher au mur et d'en faire l'expérience.
Mais alors de quel tableau s'agit-il ?
Alors, on ne sait pas exactement, et peut-être que d'autres que moi auront des hypothèses plus assurées, mais on suppose qu'il s'agirait d'un autoportrait de Roger van der Weyden, dont on a une copie dans une tapisserie aujourd'hui que j'ai reproduite dans l'ouvrage, qui n'est pas nécessairement le plus convaincant des regards omnivoyants, hein, comme c'est dit dans le texte, mais qui néanmoins est un visage de trois quarts, encore une fois avec une orientation du visage d'un côté et des yeux de l'autre. Et on a le sentiment qu'effectivement, le regardant de côté, de l'un de l'autre, il nous regarde toujours, ce qui est la fameuse qualité de Mona Lisa. En général, c'est ce qu'on dit quand on va aussi la voir au Louvre.
Et qu'est-ce que vous appelez, à un moment donné, vous avez cette expression, et je trouve ça assez intéressant, peut-être par rapport à ce tableau de Raphaël dont on parlait tout à l'heure, le regard admoniteur.
Alors là, c'est l'idée de... Alors je ne sais pas si c'est à propos de Raphaël que je l'emploie, mais l'admoniteur, c'est celui qui...
Ça peut être à propos du Jean-Baptiste de pareil.
En fait, ça peut être à propos de toute une série de tableaux. L'admoniteur, c'est en principe la figure de celui qui, placé dans le tableau, nous indique où regarder. Mais l'idée que j'ai essayé de développer à partir de cette notion, c'est qu'il pourrait y avoir finalement des restes de cet admoniteur qui ne serait pas représenté véritablement, pas figuré, mais peut-être que dans le strabisme ou dans certains des portraits que j'ai étudiés, il viendrait hanter encore la toile pour s'adresser à nous. C'est-à-dire que ce double regard, à la fois qui s'adresse à nous et qui s'adresse aussi à d'autres, reprendrait à son compte cette fonction et pourrait parfois nous regarder comme un admoniteur, nous avertir, mais par le biais d'éléments qui ne seraient pas forcément les yeux peints. C'était aussi dans cette idée-là que je l'avais développée, je crois, à propos d'un tableau de Goya, si ma mémoire est bonne, qui est une nature morte à la tête de mouton.
Alors, puisqu'on parle des chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture et que les yeux y ont un rôle très particulier, l'un de ceux qu'ils sont les plus fascinants, c'est probablement le fameux tableau de Bronzino, le portrait d'un jeune homme de 1540 qui se trouve au Metropolitan et qui est totalement dingue dans sa construction même. C'est ce personnage vertical, habillé de noir, dans un univers totalement symétrique où rien ne semble être désorganisé et qui a juste ce petit décalage des yeux qui va nous faire comprendre que tout est désorganisé, que toute la question, c'est l'équilibre général de la personnalité et non pas seulement de l'espace.
Oui, il est absolument incroyable ce tableau et je suis très heureuse d'être allée le voir parce que il y a des choses que je ne voyais pas dans sa reproduction. C'est effectivement un visage très blanc et impassible, peut-être un petit peu hautain, qui semble nous regarder, mais l'œil qui est à notre droite, très clairement, part sur le côté et effectivement cette dissymétrie du regard se déploie complètement et se rejoue dans l'ensemble de l'économie du tableau, dans la manière dont les mains sont disposées, un doigt qui se glisse entre deux morceaux du livre, dans l'espace qui se trouve à l'arrière également et surtout dans les plis du vêtement où est caché un visage grimaçant, dans les plis noirs du tissu, dans la partie basse du tableau.
C'est comme s'il y avait une lutte de l'âme.
Alors c'est vrai qu'il y a aussi toute une réflexion autour d'une représentation des vices et des vertus et on aurait le sentiment qu'il y aurait voilà une facette dans cette blancheur, une facette vertueuse et puis quelque chose qui au contraire travaillerait la représentation de manière beaucoup plus grotesque et cauchemardesque. Effectivement, il y a cette organisation-là, mais ce que je trouve absolument passionnant dans ce Bronzino, c'est que tout ça se condense et se redéploie à travers la spécificité, vraiment la singularité de ce regard.
C'est, on dit, je pense à quelque chose qui était à peine anachronique, hein. Je pense évidemment à Polyphile, à une psychomachie, à une bataille à l'intérieur de l'âme. C'est Jacob et l'ange, d'une certaine façon. C'est la lutte avec soi-même.
Oui, c'est chez Bronzino, très certainement. Et dans ce tableau, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que cette lutte, elle n'est pas explicite en même temps. Il faut un temps de découverte. Il faut le voir en vrai pour percevoir ce détail. Peut-être une dernière chose par rapport à ça. Je pense qu'il joue aussi avec quelque chose qui est un sentiment naturel que nous avons, qui est la diplopie. C'est cette manière de voir des... C'est une tendance de l'esprit humain, de la perception, à voir des formes dans l'informe, à voir des visages dans les nuages. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre. C'est-à-dire que c'est un petit peu un retardement que nous percevons.
Mais la diplopie... telle que vous la décrivez, c'est-à-dire des formes subtiles qui apparaissent dans des informes, dans l'informe. Vous l'avez dans l'atelier de Courbet, il y a beaucoup de tableaux, ça a été très utilisé.
On la trouve partout, et là il la pousse d'une certaine manière, là il n'y a pas de doute sur ce visage, mais je pense quand même qu'il y a une intuition de ce mécanisme-là pour que nous puissions quand même percevoir à un moment donné cette forme anthropomorphe, et il y a toute une histoire évidemment des images anthropomorphes dans la peinture.
Ce qui est fou, c'est que ce combat souterrain... du personnage pris entre des monstres, portant un monstre, etc., est fait dans le tableau le plus impassible que je connaisse. Mmh. La construction est presque celle de l'autoportrait de Poussin, parfaitement à la Mondrian, si je puis dire, ou à la Sainte-Rédam, hein, presque. Et en même temps, il y a une lutte à l'intérieur de ce tableau, mais invisible. Vous avez une expression à propos d'un autre tableau du même, si je puis dire, que j'adore, et qui, je ne crois pas que ce soit une expression de vous, mais vous l'avez cité, et je la trouve tellement juste. Vous dites un personnage masqué de sa propre chair. Et c'est vrai que le visage est un masque. Dans ces deux tableaux, qu'est-ce que c'est l'autre tableau ?
L'autre tableau, c'est le portrait de Dame au petit chien de Bronzino, et c'est Daniel Arras, je crois, qui a cette très belle expression. Oui, et le masque, c'est aussi ce qui permet l'efficacité, c'est-à-dire que c'est dans la retenue que se joue tout ce que vous décrivez là.
Et c'est très très étonnant, je trouve. Alors, il y a un drôle de moment dans le livre où vous laissez entendre, et j'aimerais bien comprendre ce que vous voulez dire, que le tableau représente un personnage dont le strabisme imaginé ou utilisé comme piège, en quelque sorte, pour nous piéger, est inventé par l'artiste, appuyé par l'artiste, subtilement ou légèrement ou fortement. Et vous dites à un moment donné, mais par contagion, c'est le tableau qui devient strabique. Parce que le tableau est lui aussi une anatomie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
Oui, je vais essayer d'être rapide. Alors, il y a deux choses. Il y a
l'anatomie. Pas trop, hein, parce que c'est une clé, j'ai l'impression.
Il y a une expression que j'aime beaucoup de Paul Klee, justement, qui est l'anatomie du tableau.
C'est
joli. L'anatomie du tableau qu'il distingue de l'anatomie humaine, qui justement a ses propres règles d'organisation. Et ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, on pouvait ne pas souffrir d'une loucherie et pourtant produire un tableau strabique. Et puis, la deuxième chose, c'est Jean-Luc Nancy qui a produit pour moi, un vrai déclic dans un ouvrage qu'il a consacré au portrait, où il va parler justement du regard du tableau qui double le regard du portrait, c'est-à-dire qu'il va montrer que le portrait regarde et il ne regarde pas que depuis les yeux de la personne peinte, mais depuis bien d'autres endroits. Il y a comme des yeux, d'une certaine manière, qui se trouvent ailleurs que dans le visage du portrait.
Alors là, il y a un portrait absolument dingue dans le livre. Je ne pense pas au portrait de Lotto, dont on va parler juste ensuite. Je pense au portrait de Veneto. Alors, Veneto, on est un peintre qui est entre Milan et Venise. Hein, donc, on est quoi ? On est 1510 à peu près. Et il a fait toute une série de portraits d'hommes et de femmes à peu près sur le même système de représentation. Mais celui que vous avez choisi, décrivez-le, est dingue. Avec ce labyrinthe en plein cœur, c'est fou.
Alors, décrire, c'est une gageure. C'est un homme qui est richement paré, hein, comme toujours chez Veneto, avec tout un ensemble de détails, de fourrures, de motifs sur la coiffe, un paysage en arrière-plan sur la droite, un rideau pourpre à l'arrière. Mais il a, outre tous ces éléments, il a un regard qui louche. C'est un homme qui louche et c'est vraiment... Alors celui-ci, il est explicite. On n'a pas de texte pour commenter davantage cette représentation, mais il est frappant. C'est donc un regard convergent, ici un strabisme convergent. Et il y a un ensemble d'éléments, et notamment les bagues qu'il porte à ses mains, qui sont absolument époustouflants parce que reproduisant un double regard dans la partie basse du tableau.
Mais ce qui est dingue, c'est que il y a cette main en plein cœur d'un labyrinthe, et dans ce labyrinthe, il y a les deux yeux que vous expliquez, et que je n'avais pas remarqué tout de suite, mais une fois que vous l'avez dit, c'était d'une évidence totale, les deux bagues sont des yeux, et sur l'autre main, il y a deux bagues, il y a même le est-ce que c'est l'annulaire, ou l'index, je ne sais pas, qui est entre les deux, et entre les deux bagues, qui dessine presque un nez, on a un visage. Et il est fou, ce tableau. Je n'en revenais pas quand je l'ai vu. Et là, on comprend que le tableau louche, c'est-à-dire que le regard n'est pas du tout là où on pense qu'il peut être.
Oui, je pense que cette main et ces bagues nous regardent au moins autant, même plus que le visage de cet homme. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, tel qu'il est accroché à Cambridge, il est accroché très haut, assez mal accroché, je dirais. D'ailleurs, il faut aller le chercher pour le trouver. Mais finalement, notre regard est plutôt à hauteur de main qu'à hauteur de visage.
Alors, il y a des tableaux qui font loucher. Je pense au tableau de Velázquez, le bouffon de Calabasilias de 1637. Et alors celui-là est très amusant parce que quand vous le regardez, vous êtes quasiment obligé de loucher. L'artiste parvient à écarter vos pupilles de façon divergente.
Alors c'est vrai que ce personnage, ce bouffon louche et son visage est assez éclairé, sinon l'œuvre est assez sombre. Mais de part et d'autre du personnage, il a disposé des sortes de vases, d'amphores, comme de sphères finalement, qui nous amènent vraiment à une diplopie, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir double soudainement, là aussi, de part et d'autre du corps du personnage.
Je trouve que c'est un tableau absolument étonnant. Mmh. Alors... et qui fait bien comprendre ce que vous voulez dire, c'est que le tableau est devenu une anatomie. Alors évidemment, vous parlez d'un tableau de Lotto, mais je pense qu'on va pas avoir le temps de rentrer dans ce tableau, parce que je voudrais que nous parlions de ce vers quoi nous conduit votre livre, c'est vers l'invention d'une modernité absolue qui est celle de Manet. Et là encore, le jeu des regards chez Manet est extraordinaire. Et il y a plusieurs tableaux dont vous nous parlez. J'aimerais bien que vous y reveniez. Peut-être on peut dire un mot du balcon, qui est le plus connu de tous.
Oui, parmi bien d'autres bien connus. Et c'était pour moi un petit peu un défi de revenir à Manet. Mais il me semble que ce que j'ai pu déceler dans les siècles précédents, qui étaient
après Foucault, tout les choses, à,
voilà, après Foucault modeste. Tout simplement. Oui. Mais ce qui était larvé, je pense, et qui reste des cas à part, c'est une histoire singulière et quand même dans les marges que j'ai dressée là à partir du XVe siècle. Mais chez Manet, je pense que ça devient explicite. Sauf que ça se traduit d'une toute autre manière. Je pense que les regards chez Manet sont absolument fascinants. Alors le balcon, c'est une expérience qui consiste à voir trois personnages au balcon qui regardent tous dans des directions différentes. Donc on a un clivage absolu du regard sans savoir, sans pouvoir dire ce à quoi s'adressent ces regards. Et je pense que la grande différence avec Manet, c'est que contrairement à l'omnivoyance dont on a parlé tout à l'heure, où finalement le regard strabique pourrait me regarder moi et regarder tout le reste, là on ne sait pas ce qu'il regarde. Et c'est justement cette interrogation qui est permanente dans les regards.
Là où vous en venez, c'est que le regardeur est devenu totalement instable. Il ne sait plus où se mettre, d'une certaine façon. Nous, regardeurs, ne savons plus où nous mettre devant ce tableau.
Oui, et ça, c'est une expérience que j'ai faite au musée, à nouveau. Alors, au Met, devant notamment cet extraordinaire portrait de la femme au perroquet, qui est de 1866, où j'ai cherché à me placer, en fait, à trouver le moment où je croisais le regard de la femme qui était peinte, et je n'ai
alors,
jamais
il faut
trouvé
dire
l'endroit.
C'est un très grand tableau.
C'est un très grand tableau, c'est un portrait en pied. C'est une femme qui a une robe rose clair avec un perroquet sur sa gauche et qui, très délicatement, renifle un bouquet de violettes, essaie d'en sentir le parfum, tandis que de son autre main, très discrètement, elle tient un monocle, mais ce monocle, elle ne s'en sert pas pour regarder. Et je pars de ce détail-là, justement, de l'usage de ces deux gestes pour essayer de décrire finalement, peut-être, en tout cas, ce que Manet aurait tenté de peindre, qui serait l'effluve d'un parfum, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas matériel.
On dit que ce sont les cinq sens qui sont représentés.
C'est une hypothèse, oui, du tableau.
C'est crédible ?
ça m'a permis, moi, d'arriver à cette question de l'odorat et de l'imperceptible et de l'immatérialité qui se trouve là dans cet espace vacant que j'évoquais déjà avec Botticelli.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un tableau dont vous parlez à un moment donné, ou d'une colère que Manet a eue à l'égard de quelqu'un qui lui dit « mais c'est pas... j'aimerais que vous me retouchiez » et Manet dit non, il n'en est pas question.
Oui, j'aime beaucoup ce
passage. De quel tableau s'agit-il ?
Alors, c'est du portrait de Moore et c'est Antonin Proust qui relate cette anecdote.
Ah ben alors, écoutons-la alors. Écoutons Antonin Proust qui rapporte des propos de Manet.
Quand je commence quelque chose, je tremble en pensant que le modèle me fera défaut, que je ne le reverrai plus aussi souvent que je voudrais le revoir et dans les conditions où je voudrais le revoir. On vient, on pose, puis on s'en va, se disant « il finira bien tout seul ». Eh bien non, non, on ne finit rien tout seul. D'autant moins qu'on ne finit le jour même où on commence, mais qu'il faut recommencer souvent et qu'alors il faut beaucoup de jours. Oh, il y en a en revanche qui reviennent quand on ne les appelle pas, en me demandant que je retouche ce à quoi je me refuse. Voilà le portrait du poète Moore. En une séance, ça y était pour moi, mais pas pour lui. Il est venu m'embêter en réclamant un changement ici, une modification là. Je ne changerai rien à son portrait. Est-ce ma faute à moi si Moore a l'air d'un jaune d'œuf, écrasé, et si sa binette n'est pas d'ensemble ? Ce qui est d'ailleurs le fait de toutes nos binettes, car la plaie de notre temps, c'est de rechercher de la symétrie. Il n'y a pas de symétrie dans la nature. Un œil ne fait jamais pendant à l'autre. Il est différent. Nous avons tous le nez plus ou moins de travers, la bouche toujours irrégulière. Mais allez donc faire comprendre cela au géomètre.
Chez Manet, c'est une évidence. Il y a parfois une main sauvage, une main extraordinairement finie. Il y a un œil plus bas que l'autre, ouvert d'une façon très particulière. L'instabilité des corps est définitive. C'est correspond, à votre avis, à l'instabilité de ce temps-là, au moment où la peinture se dénoue autrement ?
Certainement, en tout cas, il y contribue fortement et j'aime beaucoup cette dernière phrase, aller dire ça au géomètre, parce que finalement, ça rassemble aussi ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que précisément, ces mouvements strabiques du tableau ne suivent pas les géomètres, ne suivent pas les lignes de la perspective, ne suivent pas non plus l'idée qu'il y aurait une place assignée d'emblée théorique pour le spectateur. Et Manet a bien déstabilisé la place supposée du spectateur, c'est certain, et à travers tout son œuvre.
Mais comme vous avez bonne mine, en pleine forme, quel éclat! Sûrement personne ne s'imagine ce qu'il faut travailler pour ça. Il faut souffrir pour être belle. Bon, le crépi, ça va tout seul. En deux ou trois coups de truelle, ça vous a une toute autre gueule. Il faut franchir tous les écueils jusqu'au satané deuxième œil. Pour le premier, pas de panique, on le tartine avec du bleu, puis une ligne qui rebique et fait le regard langoureux. Un mascara très ordinaire, super extra maxi allongeant, en essayant de ne pas faire de dégâts en éternuant. Je demande qu'on se recueille, nous abordons le deuxième œil. Tout aussitôt ça se complique, le bleu se met à déborder, le trait qu'on voulait symétrique a tendance à dégouliner. Allons bon, j'ai fait une tâche et j'ai des grumeaux plein les cils. Un œil de biche, un œil de vache, ça y est, je reste de profil. Faut-il abdiquer tout orgueil et refaire le premier œil? J'envie presque Madame Cyclope qui peut se faire à volonté une paupière d'antilope sans avoir à récidiver. Je crayonne saisi de rage, œil de bœuf ou œil de perdrix, et jusqu'aux yeux dans le potage, plus rien n'échappe à ma furie. Je crois que j'ai atteint mon seuil de tolérance au deuxième œil. Et puisqu'enfin tout me résiste, il me reste une solution, Demander à l'éclairagiste de ne me cibler que le bon. C'est compter sans ce trouble fait par mes grimaces alléchées. Le photographe qui me guette, cherchant à faire un bon cliché, et qui a choisi son fauteuil pile du côté du deuxième œil. Vous, mes amis, mes congénères, vous qui me comprenez si bien, qui vivez le même calvaire, qui tremblez de la même main, mettons fin à la tyrannie, décidons dans un geste fou cet œil qui gâche notre vie, de ne plus le maquiller du tout. Qu'on le défende ou qu'on le veuille, liberté pour le deuxième œil. Qu'on le défende ou qu'on le veuille, liberté pour le deuxième œil.
Aujourd'hui, on a traversé à grands pas quelques siècles de peinture, mais en s'apesantissant sur quelques chefs-d'œuvre absolus, Van Eyck, Van der Weyden, et des interprétations absolues aussi. Vous parlez de Daniel Arras, que nous aimons beaucoup, mais aussi Nicolas de Cuse, etc. Vous trouvez que ce sujet vous paraît aujourd'hui une anecdote dans l'histoire de la peinture, ou au contraire, vous avez l'impression que c'est une construction qu'il faut considérer comme assez déterminante et que le relais se passe consciemment d'artiste en artiste?
Alors, est-ce qu'il se passe consciemment d'artiste en artiste? Je ne sais pas, mais je pense, sinon je n'aurais pas écrit ce livre, que c'est autre chose qu'une anecdote. Vous m'avez demandé pourquoi Moulin au départ. Je pense que l'art d'aujourd'hui m'a permis de regarder rétrospectivement ces peintures et de tracer une autre histoire, une histoire des œuvres, peut-être pas une histoire de l'art. Et j'ai le sentiment, j'ai essayé de prendre des exemples suffisamment éloquents pour qu'ils puissent poursuivre leur voie aujourd'hui. Et peut-être dans d'autres champs artistiques, dans la sculpture, dans le cinéma, pourquoi pas. Ça ne veut pas dire que tout est strabique, bien au contraire, mais je pense que penser un régime de perception et de construction de l'œuvre différent de celui qui, en général, est dominant dans l'histoire du portrait, permet de renouveler véritablement les questions qu'on se pose et les manières de faire aussi, dans une actualité de la perception où nous sommes face à des écrans qui démultiplient et dispersent notre regard.
Vous en feriez volontiers une exposition ?
Pourquoi pas ? Je n'y ai pas pensé sous cette forme, mais
ça sera très facile d'emprunter ces quelques chefs-d'œuvre.
Bien sûr, évidemment. En tout cas, je pense qu'on pourrait en faire quelque chose, oui, de l'ordre de l'exposition, parce que c'est lié à une véritable expérience de spectatrice et de spectateur.
Merci infiniment, Nathalie Delbar, pour votre très belle étude sur le strabisme du tableau et les regards divergents du portrait. Merci.
Merci à vous.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Nathalie Delbar, historienne de l'art, à propos de son livre « Le strabisme du tableau, essai sur les regards divergents du portrait » qui vient de sortir aux éditions de l'Incidence. Vous retrouverez évidemment les références des musiques, des livres, les images, des tableaux dont nous avons parlé sur le site franceculture.fr. C'est une émission qui est conçue en collaboration avec Seam Boutata, merci Seam. Lecture des textes, Nathalie Canoui. Prise de son, Manon Houssin. Réalisation, David Jacuboviez. Dans quelques instants, Jukebox par Amaury Chardot. Et je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture.